الحمد لله الحمد لله وحده الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة من النار هو الصيام جنة من النار صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا Mes chères mères et sœurs et mes chers frères, toutes les louanges, les gloires et remerciements reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le très miséricordieux, qui nous a donné la chance d'être réunis en ce second dimanche de Ramadan, au début de la seconde décade de ce mois sacré, de ce mois plein de bénédictions, pour évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous rappeler Allah tabarak wa ta'ala et pour prendre le sens véritable de cet exercice spirituel que nous sommes en train d'observer depuis bientôt 10 jours. Chère mère, chère sœur, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'être humain. Allah tabarak wa ta'ala, il a donné un objet, un objectif à la présence de l'homme sur cette terre. Et Allah tabarak wa ta'ala a déterminé clairement pour cet homme qui sont ses alliés et quels sont ses ennemis. Parmi les ennemis de l'homme, le plus grand d'entre eux, sans aucun doute et incontestablement, c'est Shaytan. Et Allah subhanahu wa ta'ala est plein de justice. Lorsqu'il vous donne un ennemi, eh bien Allah tabarak wa ta'ala, il vous octroie les armes pour combattre cet ennemi. Ainsi donc, Allah tabarak wa ta'ala a donné à la ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam une arme extraordinaire pour se prémunir, pour combattre Shaytan avec ses artifices, avec ses fourberies. Et l'arme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordée à cette ummah, c'est le jeûne. Le jeûne est une ibada, c'est un acte d'adoration qu'Allah tabarak wa ta'ala a évoqué dans le Saint Coran une seule fois. La salat, Allah subhanahu wa ta'ala, on a parlé plusieurs fois dans le Coran. Le dhikr, Allah tabarak wa ta'ala en parle plusieurs fois. La sadaqa revient plusieurs fois, ainsi que d'autres ibadat. La particularité du jeûne du Ramadan, c'est que c'est le seul commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala qui apparaît en un seul endroit dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala en parle une fois, puis Allah tabarak wa ta'ala n'en parle plus. Allah subhanahu wa ta'ala va parler ensuite des jeûneurs, as-sa'imina wa as-sa'imat, où Allah subhanahu wa ta'ala, il va parler plus tard, eh bien, de la manière de se racheter lorsqu'on commet une erreur. Mais le sawm Ramadan, kutiba alaykum as-siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, Eh bien, ça, cela n'apparaît qu'une seule fois dans le Saint-Coran. Ce jeûne-là, Allah subhanahu wa ta'ala l'a accordé à l'ensemble des communautés monothéistes. D'ailleurs, il le dit lui-même, « Kutiba alaykum usriyam ». Mais dans la forme du jeûne, entre la manière dont nous, Ummati Muhammadiyya alayhi salatu wa salam, nous observons le jeûne et les communautés précédentes, il y a une différence. Auparavant, le jeûne durait 24 heures. Vous imaginez? 24 heures. Aujourd'hui, sur Facebook, hein, mashallah, on met des croquis pour montrer eh bien, dans quelle zone du monde on jeûne le plus et dans quelle zone on jeûne le moins. Et la Réunion a la chance, ça a une chance d'être dans cette zone du monde où le jeûne est fait de manière équilibrée par rapport aux forces humaines. Il y a des endroits où on jeûne 20 heures. À l'époque, c'était 24 heures de jeûne. Et la particularité du jeûne des temps précédents était également que si quelqu'un avait déjà fait iftar et qu'ensuite le sommeil prenait cette personne, elle n'avait plus le droit de manger. C'était foutu. Vous êtes rentré chez vous, vous avez mangé quelques gâteaux, vous avez travaillé toute la journée, vous êtes fatigué, vous somnolez, vous dormez. Puisque vous avez dormi, vous n'avez plus le droit de manger. Et au début de l'islam, eh bien, les sahaba radiallahu ta'ala anhum ne connaissaient pas encore eh bien, les ordres concernant les horaires. Et ils étaient dans la réflexion que le jeûne s'observait en fonction des ordres liés aux horaires, comme dans les oumades précédents. Ainsi, il y avait un sahaba, radiallahu anhu, du nom de Qais. Lui, il avait un troupeau de chameaux. Donc, vous savez, dans le désert, il fait chaud. Eh bien, gérer les animaux, aller derrière l'un, derrière l'autre, c'est fatigant en période de jeûne. Et au bout d'une journée de jeûne, à s'occuper de ses bêtes, il rentre chez lui. Et là, Qais, radiallahu anhu, il demande à son épouse, il lui dit, est-ce qu'il y a quelque chose à manger pour iftar? Et son épouse lui dit, il n'y a rien. Mashallah, aujourd'hui, nos épouses, lorsque les époux rentrent à la maison, les tables, mashallah, elles ont déjà préparé avec les samoussas, avec les katlès, avec les cornes de gazelle, parce que, mashallah, aujourd'hui, notre culture culinaire s'est aussi et également enrichie, mashallah. Il y a tout ça sur la table. Et si vous dites à votre époux, il n'y a rien, mashallah, il va vous dire, mashallah. C'est ce que Qais radiallahu anhu, il a fait. Il rentre chez lui, il dit à son épouse, il y a quelque chose à manger, il lui dit, il n'y a rien. Mais je vois que tu es fatigué, je vais préparer quelque chose pour toi. Qais radiallahu anhu, pendant que son épouse est en train de préparer le iftar, il est pris de sommeil, il dort. Lorsqu'elle arrive et voit son mari qui s'est endormi, elle lui dit, pauvre de toi. Parce que nous sommes au début de l'islam, elle pensait, et lui aussi pensait, que parce qu'il s'était endormi, comme dans les oumades précédents, il n'avait plus le droit de manger maintenant. Le lendemain, dans la salat de Zohr, Qais radiallahu anhu s'est évanoui dans le masjid. Nabawi sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande aux sahaba radiallahu anhum, qu'est-ce qui t'est arrivé à Qais? Et là, il lui explique que ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, il n'a rien mangé. Imaginez, ça va faire plusieurs heures qu'il s'est privé de manger. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous ne pouvez pas, nous ne pouvons point imaginer combien Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous aimait. Il a mal pour sa tumat. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala révèle le verset qui détermine que on peut manger jusqu'à l'aube et on va rompre notre jeûne eh bien, au coucher du soleil. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est également arrivé que certains sahaba radiallahu anhum, en observant le jeûne, ils ne l'ont pas observé en respectant tous les commandements liés au jeûne. Ainsi, un jour, un sahaba, il vient voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, « Ya Rasulallah, je suis fichu. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Il dit que j'ai eu une relation intime avec mon épouse. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ben, « Libère un esclave. » Il dit, « Ya Rasulallah, mais je suis moi-même tellement pauvre, quel esclave j'ai ?» Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, « Donne à manger aux pauvres, à 60 pauvres. » Il rigole et dit, « Ya Rasulallah, mais c'est moi-même qui est pauvre. Où est-ce que je vais trouver 60 pauvres et comment je vais nourrir 60 pauvres ?» Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ben, « Jeûne pendant 60 jours. » Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Un jour déjà, je ne tiens pas le coup. Tu me dis de jeûner 60 jours ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rigole. Il lui dit, « Bon, assis-toi, mets-toi dans un coin. » Quelques instants après, quelqu'un arrive, il offre au prophète sallallahu alayhi wa sallam un sac de dattes. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, « Prends ce sac et va distribuer ça aux pauvres de Madina. » Alors il regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit, « Ya Rasulallah, mais il n'y a pas plus pauvre que moi dans Madinat al-Munawwara. » Nos muhaddisin, ils expliquent, ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tellement ri qu'on a vu jusqu'à les dents en haut du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rarement le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autant rigolé que cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, bah, « Prends et amène chez toi et mange. » Ça, c'était la compassion que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait pour nous, mes chères mères et sœurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, maintes et maintes fois, vous avez eu l'occasion d'entendre dans des bayanes que pendant plusieurs jours, il ne mangeait pas. Pourtant, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le mois de Ramadan, il jeûnait, la dernière bouchée qu'il mangeait dans l'heure de sihri du suhour, c'était juste avant Adhan. Juste avant Adhan. Pourquoi ? Pour montrer à la Oumma que c'est facile. Alors, on a des horaires à Ramadan, on nous dit 6 minutes de marche, 7 minutes de marche, 8 minutes de marche, mais ce sont des marches. Certaines fois, il y a des familles qui se réveillent en retard, et à cause des marches, bah, elles ont peur de manger. Les gens n'ont pas compris qu'on peut manger jusqu'au Subhi Sadir. Il faut le connaître. Ce dîn est facile. Ce dîn n'est pas difficile. Allah subhanahu wa ta'ala, il a rendu l'observance de toutes les ibadat faciles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au moment de iftar, il mettait un sahaba sur une hauteur et lui disait d'observer si le soleil se couche. Dès que le soleil se couchait, le sahaba faisait un signe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam immédiatement mangeait. Vous pensez vraiment qu'il avait tellement faim qu'il mangeait tout de suite? Mais c'était pour montrer à sa umma la promptitude qu'il faut avoir dans le iftar. La facilité qu'il y a à manger dans le suhoor et dans le iftar. Ce qu'il fallait retenir de ce dîn, on ne l'a pas retenu. Et on est en train de créer une négligence sur le dîn et de l'autre côté, un tel rigorisme sur l'exercice du dîn que cela repousse les gens de la pratique de la religion. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec beaucoup d'amour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué combien ce dîn est facile. Jamais un prophète dans l'histoire des anbiya alayhi salatu wa sallam n'a autant pleuré pour sa ummat que comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a tellement pleuré devant Allah, il a tellement pleuré devant Allah subhanahu wa ta'ala que l'archange Jibril alayhi salat wa salam, il est descendu sur terre, il vient voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, « Ya Rasulallah, mais pourquoi tu pleures comme ça ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, « C'est la tristesse pour ma umma. » Mes chères mères et sœurs, au yawm al-qiyama, tous les prophètes alayhi salat wa salam, ils diront « Nafsi, nafsi ». Certains prophètes, ils étaient prophètes de père en fils, Daoud et Suleyman, alayhim salatu wassalam, ils diront nafsi, nafsi. Vous aurez Yaqub, alayhi salatu wassalam, Youssouf, alayhi salatu wassalam, mais ils diront nafsi, nafsi. Ibrahim, alayhi salatu wassalam, Ismaïl, alayhi salatu wassalam, nafsi, nafsi. إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إسحاق عليه الصلاة والسلام، نفسي نفسي، عيسى روح الله لسفل الله يديغا نفسي نفسي، موسى كليم الله يديغا نفسي نفسي. En ce jour, chaque personne sera pris dans sa crainte personnelle. Comment est-ce que va se passer mes comptes? Comment vont se passer mes comptes devant Allah subhanahu wa ta'ala? Et puis on va entendre une personne qui va arriver qui dira « Ummati, Ummati ». Mais quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam va arriver, chère mère, chère sœur, il ne parlera pas seulement de la Ummat qui faisait ses 5 salats. Il ne parlera pas seulement de la Ummat qui était muttaqi, qui avait la crainte d'Allah. Il ne parlera pas seulement de la Ummat qui était obéissante à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam viendra et lorsqu'il dira « Ummati, Ummati », cela englobera toute sa Ummat. Ceux qui ont succombé à la tentation de l'alcool, ceux qui certaines fois ont fait l'adultère, ceux qui auront menti, ceux qui auront joué au jeu du hasard, ceux qui auront désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, sans distinction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dira « Ummati, Ummati ». Alors, nous aussi, ayons et faisons l'effort en ce mois de Ramadan de développer dans notre cœur eh bien, cet amour pour Allah et pour son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. La première chose que nous devons de nous poser maintenant, première question, premier appel à l'éveil des consciences en ce dimanche, c'est qu'après 10 jours de jeûne, est-ce que mon amour pour Allah et pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam a augmenté après 10 jours de jeûne? Ou ma relation avec Allah est toujours pareille? Mon amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je l'aimais avant le mois de Ramadan, je l'aime encore pareil. Le dard, vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il regardait la ummat, il avait mal pour sa ummat. Il avait douleur, il avait souci. Qu'est-ce qui fait qu'un homme qui toute la journée invite les gens vers Allah, le soir il se met debout et ses pieds s'enflent quand il reste dans la prière devant Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce qui fait qu'un homme, eh bien, à la veille de l'expédition de Badr, toute la nuit il pleure devant Allah, tellement il pleure que son ami intime Abu Bakr radiallahu anhu est obligé de venir le voir? C'est ce souci, c'est cette tristesse pour la Ummah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mes chères mères, dans sa vie entière, il a jeûné 9 Ramadan. Il a jeûné 9 Ramadan. Sur les 9 Ramadan, 7 Ramadan, il a observé 29 Ramadan. Et 2 Ramadan, eh bien, il y a eu 30 jours de rosa. Ça, c'est la configuration de ce jeûne qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. J'avais dit en introduction que la meilleure arme, l'arme la plus redoutable qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée à cette Ummah pour combattre le shaitan, c'est le jeûne. Alors, shaitan, comment est-ce qu'il nous attaque? Shaitan nous attaque de 4 côtés. En premier lieu, shaitan nous attaque par derrière. Certaines fois, il nous attaque par derrière, il nous attaque de face, il nous attaque sur la droite, et il nous attaque sur la gauche. L'attaque de face de Shaitan est une attaque qui fait beaucoup de dommages au XXIe siècle. Shaitan nous fait penser que Dieu n'est qu'amour. Dieu, il n'est qu'amour. Et que fais ce que tu veux, fais tous les péchés, c'est pas grave. Allah, il va te pardonner. Bien sûr, Allah est ghafour rahim. Mais le iman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit c'est quoi? Al-iman ou bayn al-khawfi wal-raja. Iman, c'est entre l'espoir et la crainte. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit Nabbi' ibadi anni ana al-ghafour rahim wa anna azabi huwa al-azab al-alim. Donne la nouvelle à mon serviteur, à mes serviteurs, qu'Allah il est pardonneur, mais que mon châtiment il est douloureux aussi. Mes chères mères et sœurs, nous devons d'avoir cela à l'esprit. Parce que qu'est-ce qui fait que quelqu'un se permet de transgresser toutes les limites qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fixées? Autour de nous, Nous vivons dans une société où nous consommons toutes sortes de messages aujourd'hui. Et ces messages nous laissent penser qu'on a le droit de tout faire. Parce qu'au final, tout sera pardonné. Mais nous sommes musulmans. Et dans la croyance des musulmans, nous savons que Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyés sur cette terre et qu'un jour nous devrons retourner devant Allah subhanahu wa ta'ala. Faire les 5 prières, ce n'est pas facultatif. Faire les 5 prières, c'est une obligation. Faire les 5 prières, c'est une obligation pas seulement dans le mois de Ramadan, mais c'est durant toute l'année que faire la salat, c'est une obligation. Payer sa zakat, c'est une obligation tout le temps. C'est-à-dire une fois dans l'année, mais il faut payer ses zakat. Ce n'est pas quand j'y pense que je le fais. Penser à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien c'est une obligation pour les musulmans de penser à Allah subhanahu wa ta'ala. Un musulman n'est pas quelqu'un de négligent. Il ne peut pas rester constamment dans la négligence et oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle en nous disant « وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ » que ce monde, eh bien, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur. Combien nous sommes tristes lorsque nous accompagnons quelqu'un dans sa dernière demeure. Mais au moment où nous rentrons dans le masjid pour faire le janaza, au moment où nous venons dans le qabrastan pour enterrer la personne, c'est là qu'on prend conscience de la réalité de ce dunya. Tout ce qu'on a construit une vie entière, eh bien, se termine au moment où on va quitter ce monde. Et c'est à ce moment-là que tout commence, mes chères mères et sœurs. C'est comme si nous étions devenus consommateurs et consommatrices de bayan et en se disant que, ok, le mois de Ramadan est arrivé, on va faire un joli doua et Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous pardonner. Mais oui, Allah va nous pardonner. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe? Après que j'ai demandé pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que je vais maintenant manger halal ou pas? Parce que pour que mes doigts sont acceptés par Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que ce que je consomme soit halal. Pour que ce que j'ai consommé soit halal, il faut que la provenance de ce que je mange, ce soit halal. Si je construis mon patrimoine, si je construis ce que je vais donner à ma femme, à mes enfants, eh bien avec l'argent de l'intérêt, quel baraka il va y avoir dedans? Quel bien il va y avoir dedans? Là, qu'est-ce qui fait que quelqu'un, une vie entière, il se dit « Je ne vais pas céder à la tentation de la transgression. » Dans le Coran, Allah, il a dit « فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ » qu'ils soient prêts à faire la guerre à Allah et à son prophète, ceux qui vont vers l'usure. Qu'est-ce qui fait que je me dis « Je ne peux pas, je ne peux pas. » C'est parce que je sais qu'un jour je vais repartir devant Allah subhanahu wa ta'ala, j'aurai des comptes à rendre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Je connais qu'Allah, il est pardonneur, certes, que le rahmat d'Allah, que le pardon d'Allah l'a emporté sur sa colère. Mais la colère d'Allah existe aussi. La punition d'Allah subhanahu wa ta'ala existe aussi. Il faut craindre Allah. Quand la terre tremble, c'est qu'Allah, eh bien, il y a des choses que nous faisons qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas content. Lorsqu'il y a la sécheresse, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous montre qu'il n'est pas content. Lorsqu'il y a des événements naturels qui se passent et qui deviennent comme des calamités, c'est la preuve qu'il y a des a'mal, qu'il y a des actions que nous accomplissons, qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas content. Chère mère, chère sœur, chers frères, il est important eh bien, de faire son introspection. Nous ne sommes pas là pour juger. Nous n'avons pas le droit d'être des juges. Le seul juge, eh bien, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le seul juge, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Je n'ai pas le droit de juger. Celui qui dit que je ne juge pas, c'est aussi un menteur. Pourquoi? Parce que l'être humain, il est ainsi fait. Lorsque nous voyons quelqu'un, nous avons toujours la tentation de classer cette personne. Ah, madame, un tel est arrivé. Tiffy, un tel est arrivé. Lorsque cet état d'esprit arrive, lorsque j'entends cette petite voix, je me dis tout de suite, je n'ai pas le droit de juger. Allah seul juge. Donc la première chose, c'est de faire... Et comment est-ce que mon jeûne va m'aider contre cela? Le jeûne est un bouclier. Mais quel jeûne? Le jeûne où je m'abstiens de manger de sehri jusqu'à iftar? Mais s'il n'y avait que ça, tout le monde aurait pu le faire. Le jeûne qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire, c'est un jeûne des yeux, c'est un jeûne de la langue, C'est un jeûne de l'oreille. Avec cette oreille, je n'entends pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit d'écouter. Avec ses yeux, je ne regarde pas ce qu'Allah tabarak wa ta'ala a interdit. Wallahi l'azim, si vous voulez connaître la douceur de iman, si vous voulez connaître la fraîcheur que iman donne au cœur, il faut apprendre à contrôler son regard. Dans le Coran, Allah tabarak wa ta'ala dit قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. Mais il dit également وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ. Dit aux croyants de baisser leur regard. Et Allah dit aussi, dit aux croyants de baisser leur regard. À cette époque, avec Internet, avec les téléphones, nos enfants, depuis le plus bas âge, ils sont confrontés à cette perfidie qu'est la pornographie. Regardez les statistiques. À 8 ans aujourd'hui, on dit qu'un nombre invraisemblable d'enfants, ils sont déjà tombés sur cela. Mais nous agissons une nouvelle fois avec négligence. Ce n'est pas dans la répression, mais c'est dans la pédagogie. Il nous faut transmettre à nos enfants les valeurs de la pudeur, de haya. Pharaon avait dit qu'il est Dieu sur terre. Allah l'a noyé. Allah l'a noyé, Allah lui a donné une punition. Le peuple de Lout, alayhi salatu wassalam, eh bien, a transgressé tout ce qui existait dans les domaines de la pudeur. Ils ont fait ce que jamais personne n'avait fait dans l'histoire de l'humanité. L'homosexualité. Allah tabarak wa ta'ala leur a donné 5 azabs. 5 azabs. Allah tabarak wa ta'ala a fait tomber une pluie de pierres sur eux. Aujourd'hui, tout ce qui est bihayaï est devenu dans la normale. Non. Dans notre foyer, il faut qu'il y ait haya, il faut qu'il y ait pudeur. La pudeur, ce n'est pas seulement se couvrir les cheveux. C'est déjà énorme de se couvrir les cheveux. Mais la pudeur, c'est notre manière de parler. La pudeur, c'est notre manière de marcher. La pudeur, c'est notre manière d'être. Un musulman n'est pas obscène. Un musulman n'insulte pas les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais été fahash dans sa vie. Jamais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a été obscène. Comment moi, ummati de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans mon cœur il y a la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pour faire rire mes amis, je peux dire des choses honteuses que la morale réprouve? Est-ce que ces paroles-là, je pourrais les prononcer devant mon papa, devant ma maman? Le musulman, il est partout pareil. Devant la Kaaba, il est musulman. Devant la plage, il est musulman. Lorsqu'il est en vacances, il est en musulman. Lorsqu'il est seul dans sa chambre, il est musulman. Il est tout le temps musulman parce que tout le temps, Allah est avec lui. La présence d'Allah subhanahu wa ta'ala est avec lui. Ce rosa-là, il est marsoud. Ce jeûne-là, il est attendu par Allah subhanahu wa ta'ala. Rosa des yeux. Il faut apprendre, il faut revenir vers le contrôle du regard. Contrôle de la langue. Ne pas céder à la tentation de la médisance, de la calomnie. Allahu Akbar. Le téléphone sonne. Avant que le téléphone, qu'on conclue, eh bien, on finit une conversation. Peut-être que notre rosa auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est déjà dans la catégorie non prise en charge. Pourquoi? Parce que dans cette conversation, ben, il y a soit un tel, on connaît quoi l'arrivée. Mais on peut vivre sans parler des gens. On peut vivre sans avoir de la suspicion sur les gens. On peut vivre sans avoir des préjugés sur les gens. On peut vivre sans s'occuper de la vie des autres. Occupons-nous déjà de nous. C'est tellement plus important. Ce jeûne-là, mes chers mères et sœurs. Parce que nous oublions qu'Allah subhanahu wa ta'ala, un jour, quand il dit dans le Coran, « لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ » En ce jour, Allah dira, à qui appartient la royauté? À Allah. Lillah. Al-Wahid. Allah, l'unique. Tous ceux qui se sont détournés d'Allah subhanahu wa ta'ala en ce jour. Ceux qui auront reconnu Allah. Ceux qui n'auront pas reconnu Allah. Ceux qui se seront montrés obéissants devant Allah. Ceux qui auront désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun viendra devant Allah tabarak wa ta'ala. Dans quel halat? Dans quelle situation? Les Moufassirines disent que chacun d'entre nous, on aura 80 livres de compte. Allahu Akbar, 80 livres de compte. فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِ وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَانِ. Et un livre de compte, ça fait la grandeur, jusqu'à notre regard, il peut arriver jusqu'au ciel. Ça, c'est la grandeur d'un livre. Les anges qui sont obéissants à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala leur a donné une mission. Eh bien, c'est de noter les actions que l'on fait, bien ou mauvais. Eux, ils désobéissent pas à Allah, ils écrivent tout le temps. Ils n'arrêtent pas. Donc ça, c'est une chose. Shaitan, il nous donne l'impression que quoi ? Que Allah, tabarak wa ta'ala, eh bien, il va tout pardonner. Alors, tu peux te laisser tout faire. Deuxième piège de Shaitan, et le rosa est un bouclier pour nous, c'est que Shaitan nous donne l'impression que ce monde-là, il est embelli. Il embellit ce monde-là comme si on vit, comme si toute ma vie, j'allais vivre sur cette terre. Jamais on allait quitter ce dunya. Pourtant, lorsqu'on se regarde, il y a une période de notre vie où nos cheveux étaient noirs, et maintenant les cheveux sont devenus blancs. Ah oui, certains qui mettent de la teinture. Mais il faut reconnaître que les cheveux blanchissent. En passant, il y a un hadith qui dit que le cheveu qui a blanchi avec iman sera un nour yawm al-qiyam. Mais bon, certains diront, mais c'est le jour d'Aïd, Moulissa, comment on va aller avec les cheveux blancs le jour d'Aïd? Il faut teindre les cheveux. Et on a l'impression que ce dunya-là, il va durer tout le temps. Est-ce que vous connaissez un roi, aussi puissant fut-il, qui n'est jamais mort? Vous savez, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, en parlant de Pharaon, « Al-yawma nunadjika bibadanika litakuna liman khalfaka aya. » En ce jour, nous avons donné le salut à ton corps. À Pharaon, pour que tu sois un signe pour ceux qui viendront derrière toi. Pharaon, il avait tous les pouvoirs. Il avait tout ce qu'il voulait. Pourtant, il a été détruit par Allah subhanahu wa ta'ala, puni sur cette terre. Et Allah tabarak wa ta'ala a rendu son corps sauf pour qu'il soit un exemple pour tous ceux qui auraient la tentation de penser que ce monde, il est éternel. Il n'est pas éternel. C'est peut-être mon dernier dimanche de Ramadan. Et si dimanche prochain, quand vous parlerez de moi, vous parliez de moi au passé, en disant, tu te souviens, Moulissa Bagat avait fait Bayan dimanche dernier, et il n'est plus là. C'est possible. C'est même possible qu'avant de sortir du masjid, Allah subhanahu wa ta'ala me rappelle à lui. Allah tabarak wa ta'ala, il connaît avec exactitude le moment, le terme de la vie de chacun d'entre nous. Il faut comprendre cela. Et le Saum Ramadan doit éveiller cette conscience en nous. C'est pour cela que le jeûne, c'est un bouclier. Bouclier en ce sens où je comprends que ce monde est un embellissement. J'ai l'impression que tout m'est accessible. Allah subhanahu wa ta'ala me dit non. Tu as le droit de manger. Dans le Coran, Allah dit « Koulou, washrabou, mangez et buvez. » Mais dans le mois de Ramadan, Allah dit « Pendant un moment, tu ne manges pas, tu ne bois pas. » Prends conscience que tout ça, je t'ai donné pour que tu fasses mon adoration. Tout ce que j'ai mis autour de toi, c'est pour que tu fasses mon ita'at. Pas pour que tu l'utilises pour me désobéir. Allah subhanahu wa ta'ala me donne l'argent. Allah subhanahu wa ta'ala me donne la notoriété. Allah subhanahu wa ta'ala me donne des connaissances. Ce n'est pas pour faire preuve d'orgueil. Ce n'est pas pour agir avec vanité. Ce n'est pas pour agir avec fierté. L'honneur dans la richesse, eh bien, c'est de penser à ceux qui n'en ont pas. C'est ça l'honneur de la richesse. L'honneur de la richesse, ce n'est pas de dilapider ce que l'on a et d'en profiter à profusion sans jamais penser à ceux qui n'en ont point. L'autre piège de Shaitan, c'est qu'il nous pousse à aller dans les transgressions constamment, par la gauche. Vol, triche, trompe. Shaitan, il essaie de faire ça. Et dans le jeûne du Ramadan, c'est un bouclier en ce sens. Et puis, Shaitan, il essaie de nous attaquer par la droite. Et, subhanallah, et là, c'est dangereux. Et vous savez comment est-ce qu'il fait par la droite ? Il vient nous voir, il nous dit comme ça, que, écoute, toi, tu es quelqu'un de bien, toi. Toi, tu es quelqu'un de bien. Tu as vu quand tu fais namaz, tout le monde de Jamaat Kana, il t'observe quand tu fais namaz. Tellement ton namaz, il est long. Mashallah, tu as vu le signe de namaz qu'il y a sur ton front. Personne n'a un grand signe de namaz comme toi, mashallah.
Regarde comment toi tu lis le Coran. Moi, j'ai fait 52 hajj. Moi, j'ai fait telle chose. Moi, j'ai fait telle chose. Moi, tous les mois, je donne tant de milliers d'euros aux pauvres. Il fait en sorte que l'être humain tire de la fierté des bonnes œuvres qu'il fait. Et Allah déteste cela. Si vous faites une bonne action et immédiatement vous faites preuve d'ostentation, d'orgueil, d'autosatisfaction sur ce que vous venez de faire, vous dites « Ah, moi j'ai fait !» Tout ce que vous venez de faire a été anéanti. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas cela. Tout ce qu'on fait est anéanti, il faut faire attention. Shaitan joue avec notre niyad. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire. Il faut persévérer dans les ibadat. Regardez, Shaitan, il s'était prosterné partout. On dit dans le ciel, il n'y a pas un espace où Shaitan ne s'est pas prosterné devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il en a tiré de l'orgueil. Vous savez, si Allah aurait demandé à Shaitan de se prosterner devant Allah, il l'aurait fait. Mais puisqu'Allah lui a demandé de se prosterner devant Adam, il ne l'a pas fait. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire, il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire et puis remercier Allah. On l'a lu hier soir. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Si vous remerciez Allah, Allah va vous donner plus. Ou Allah, je te remercie de m'avoir permis de venir faire la salat. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je prie que j'ai la garantie de prier à la fin de ma vie. Ce qui va compter au final, c'est comment on va quitter ce monde. Les meilleures actions de notre vie devront être les dernières actions que nous aurons accomplies. Le meilleur jour de notre vie devra être celui de notre rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, ça se prépare dès maintenant, mes chères mères et sœurs. Et le mois de Ramadan, vous voyez, Ramadan, ça veut dire quoi? Ça veut dire Ramaz. Ça vient de Ramaz qui signifie brûler. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est mis debout comme ça, il a dit aux sahaba, radiyallahu anhum, qu'il regarde comme si quelqu'un arrive. Il dit, qui vient? Qui allons-nous accueillir? Alors tous les sahaba, ils tournent le dos, ils regardent. Omar, radiyallahu ta'ala anhu, il voit qu'il n'y a personne, et puis il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu as eu une révélation? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le Ramadan arrive. Vous voyez, Ramadan, on en a encore deux décades qui sont à venir devant nous. Il faut en profiter. À chaque fois que vous avez faim, cette faim-là brûle vos péchés. À chaque fois que vous avez soif, cette soif brûle vos péchés. Dans le calendrier musulman, il y a 360 jours. 30 jours de jeûne, 330 jours en dehors de Ramadan. Ramadan est tellement aimé par Allah subhanahu wa ta'ala que sur les 12 mois de l'année musulmane, les 11 mois, leur nom a été choisi par les êtres humains. Le seul mois dont le nom a été choisi par Allah, c'est Ramadan. La preuve, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Allah, eh bien, il avait élaboré le Qur'an avant même que nous ne soyons sur terre. Qur'an, il existait déjà, il était prêt. Et c'est Allah qui a choisi le nom de ce mois. À chaque fois que vous êtes en colère et que vous contrôlez votre colère, ça brûle encore plus les péchés. À chaque fois que vous avez envie de parler sur quelqu'un et que vous ne parlez pas sur cette personne, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Allah tabaraka wa ta'ala fait que cela brûle les péchés. Et il faut faire en sorte que, incha'Allah ou l'Aziz, chacun d'entre nous, lorsque nous allons arriver au terme eh bien, de ce mois béni de Ramadan, ce Ramadan, il aura brûlé tous nos péchés. Maintenant, il faut savoir qu'il y a quatre catégories de personnes qui n'obtiennent pas le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le mois béni de Ramadan. Quatre catégories. Alors, je vous demande d'écouter avec attention, s'il vous plaît. La première catégorie de personnes qui n'obtiennent pas le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les personnes qui prennent de l'alcool, les alcooliques. Quelqu'un qui prend de l'alcool, Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas. Alors comment faire? Mais il faut demander tawbah avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut promettre à Allah subhanahu wa ta'ala de ne plus jamais prendre de l'alcool. Un jour, une dame musulmane m'a dit, Moulissa, toi tu ne connais pas c'est quoi le champagne, tu n'as jamais goûté. Elle m'a dit que tout je peux faire pour arrêter, mais c'est tellement bon le champagne, comment je vais faire pour arrêter? Alors, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis que dans le paradis, Allah tabarak wa ta'ala, il dit Anharum min ma'in ghayri asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'mu wa anharum min khamrin ladhdhatin lish-sharibin. Dans le jannat, il y aura des rivières de vin, mais ça, ce n'est pas pour nous dans ce dunya. Et puis, au-delà de l'alcool, il y a un fléau qui touche nos jeunes. Parce que c'est un problème sociétal qui touche la société aujourd'hui. C'est que tout ce qui est en rapport avec les addictions. Mes chères mères et sœurs, il peut arriver qu'un enfant de notre famille ou bien quelqu'un que nous connaissions soit dans la drogue. Ils prennent des choses qui font que certaines fois, ils perdent contact avec la réalité. L'alcool est interdit en islam parce qu'il y a l'ivresse. Et il y a l'ivresse dans d'autres addictions. Il faut inciter ces jeunes, il faut leur parler, il faut dialoguer avec eux. Il ne faut pas les mettre de côté, il ne faut pas en faire des pestiférés qu'on mettrait en retrait de la société. Il ne faut pas les regarder avec mépris, il ne faut pas les condamner, il faut essayer de les comprendre. Il faut les aider à s'en sortir, il faut leur parler, il faut les inciter à développer leur spiritualité. Le mois de Ramadan nous permet de développer cette spiritualité justement, de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut leur dire que quand vous avez fait tawbah, maintenant il faut suivre une thérapie. Parce que lorsqu'on a une addiction, ça ne se fait pas sur un claquement de doigts que j'ai décidé, j'arrête. Ça ne se fait pas comme ça. Hier soir, il devait être 19h29. Je suis arrivé au masjid et j'étais dans ma voiture. J'ouvre la porte de ma voiture et mon téléphone a sonné. Alors, j'ai hésité, je ne connaissais pas le numéro, et puis je me suis dit, peut-être quelqu'un qui a un souci. J'ai répondu. Un homme m'a parlé, il m'a dit, vous êtes Moulissa Bagat? Je lui ai dit, oui. Il m'a dit, voilà, une dame m'a donné votre numéro, j'ai besoin de vous parler. Alors, je lui ai dit, mais vous savez, c'est l'heure de la prière, venez me voir au masjid. Il m'a dit, je ne peux pas venir au masjid. Il m'a dit, je ne peux pas venir au masjid parce que j'ai fait des choses trop graves. Alors je lui dis, mais c'est, rien n'est trop grave devant Allah, vous venez, on va en parler. Il m'a dit non. Avec ce que j'ai fait, je ne pourrais pas venir dans la mosquée. Alors je suis rentré dans ma voiture de nouveau, j'ai fermé la porte et je lui ai dit, dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait? Alors cet homme m'a dit, j'ai bu de l'alcool, Moulissa. Comment est-ce que je pourrais de nouveau revenir dans le masjid? Alors je lui dis, tu vas dire simplement, « Oh Allah, pardonne-moi. » Du fond de ton cœur. Je vous jure que si j'aurais pu enregistrer avec quelle sincérité, avec quelle détresse, avec quelle douleur, il a dit, « Oh Allah, pardonne-moi. » Allahu Akbar. Si à ce moment-là, cet homme aurait fait doua pour chacun d'entre nous, Allah aurait accepté. Et puis je lui dis, promets à Allah que tu ne vas plus boire. Il a dit, je promets. Dis, oh Allah, je fais tawbah. Il a dit, je demande tawbah avec Allah. Inch'Allah, il va venir au masjid, on doit se voir. Et dans notre communauté, autour de nous, parmi nos amis, dans notre famille certaines fois, il y a des gens, ils sont dans l'alcool. On ne doit pas les condamner. On doit les aider. On doit créer des structures, des moyens. On doit réfléchir pour que ceux qui sont tombés dans ces soucis, que nous ne connaissions point auparavant, que nous les aidions à sortir. Al-Imam Chishti, rahimahullah, il nous dit, lorsque quelqu'un est dans un problème, quelque chose le touche, dis-toi bien que ce qui le touche aujourd'hui, peut-être que demain ça va te toucher toi. Nous aussi, on a des enfants. On n'a pas le droit de juger les enfants des autres. On n'a pas le droit, parce qu'on ne sait pas demain ce qui va advenir de nos enfants ou de nos petits-enfants. Non. Le musulman n'est pas celui qui condamne. Le musulman est celui qui aide. Le musulman est celui qui tend la main vers l'autre. Ça, c'est important. Ça, c'est la première catégorie de personnes qui n'obtiennent pas le pardon d'Allah. Alors, autour de nous, tous ceux que nous connaissons, il faut les aider. La semaine dernière, j'en avais parlé dans un autre masjid. Une kala a téléphoné à une personne pour m'appeler, pour me dire que dans tel endroit, entre Asr et Maghrib, plein de jeunes viennent prendre de la drogue. Que faire? Parce qu'ils ont une telle dépendance, certaines fois, que, eh bien, même après iftar, on en a besoin. Mais ils sont malades. Il faut en parler. Certaines fois, dans la maison, il y a un tel tumulte dans la maison entre les parents que les enfants essaient de chercher refuge dans autre chose. Certaines fois, dans un même salon, 5 frères et 3 sœurs sont assis, mais ils sont seulement assis, mais leur cœur a une telle distance. On n'arrive plus à se regarder, on n'arrive plus à se parler. Et ça, ça a des répercussions sur les jeunes. Il faut les aider. Nos enfants ont besoin d'attention. Nos enfants ont besoin d'amour. Il faut dialoguer avec eux. Il faut parler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était amour. Qu'est-ce qui fait que celui qui est le chef des Anbiya alayhi salat wa sallam, il est allé au ciel, il a parlé avec Allah. Il est dans le sajda. Lorsque son petit-fils monte sur son dos, il prolonge son sajda. Et aujourd'hui, lorsqu'un enfant s'y rend dans le masjid, il court un peu, on le regarde avec des yeux certaines fois, comme si on devait le condamner au tribunal. Quelle différence entre le dîn que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a emmené et le dîn que nous aujourd'hui, on est en train d'essayer de montrer. Le sens des priorités dans le dîn, c'est important. Ce n'est pas ma conception, ce n'est pas ma compréhension du dîn. C'est celle que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a donnée. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, ce sont les personnes qui ont rompu les liens de parenté. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne pardonne pas ces gens dans le mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne pardonne pas ces gens dans le mois de Ramadan. Dans le Saint-Coran, dans la sourate Ar-Ra'd, Allah subhanahu wa ta'ala dit « أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ. » Il dit « Celui qui sait que ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur est la vérité, est-il semblable à l'aveugle ? Seuls les gens doués d'intelligence connaissent le bien. Ceux qui remplissent leurs engagements envers Allah et ne violent pas le pacte, qui unissent ce qu'Allah a commandé d'unir, qui unissent ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a commandé d'unir, qui unissent ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a commandé d'unir. Je croise mes mains devant vous, mes chères mères et sœurs, si en ce dimanche de Ramadan, vous avez un problème avec votre époux, et je demande aux époux, si vous avez un problème avec votre épouse, faites-vous ma'af. Faites-vous ma'af. Pardonnez-vous mutuellement. L'imam Ghazali, rahimahullah, il dit que le mari qui pardonne à sa femme, malgré ses manquements, il est comme Nuh, alayhi salat wa salam, dont l'épouse n'avait pas accepté l'islam. La femme qui pardonne à son mari, malgré ses manquements, elle a la récompense comme Asya, l'épouse de Pharaon. Ne regardez pas les manquements, mais regardez les qualités de celui qui partage votre foyer. Regardez les qualités. L'amour se construit au quotidien. L'amour, ce n'est pas un feu d'artifice. Ça dure 30 minutes et puis ça s'éteint. C'est beau, mais ça s'éteint. Mais l'amour, c'est comme le soleil. le matin. Prenez le temps le dimanche, après la salat de Fajr, allez devant l'océan, allez lire le Coran devant l'océan. Regardez, lorsque à l'horizon, le soleil se lève, c'est comme la lumière qui vient et qui va eh bien, éclairer ce monde. L'amour, c'est quelque chose comme ça, qui a son début, le début de l'amour, et puis ça monte, ça continue. Certaines fois, il y a des nuages qui vont cacher le soleil. Mais lorsque les nuages se dissipent, le soleil brille toujours. L'amour est toujours là. Il faut ramener de l'équilibre. L'amour, eh bien, s'obtient par la patience. Le jeûne est une école de la patience. Le jeûne est une école de la patience. Il faut de la patience dans nos foyers. Il faut de la patience entre nous. Est-ce que vous pensez que nos grands-parents, eh bien, n'ont pas connu des périodes troubles dans leur vie conjugale? Mais pourquoi est-ce qu'ils ne se séparaient pas? Parce qu'il y avait de la tempérance, parce qu'il y avait de la patience. Il y avait le sens des priorités. On savait que les enfants avaient besoin de papa et de maman. Il faut revenir eh bien, à un équilibre dans notre existence. Si vous avez un problème avec votre belle-fille, si vous avez un problème avec votre belle-sœur, si vous avez un problème avec votre belle-mère, si vous avez un problème avec votre sœur, si vous ne parlez pas avec votre maman, alors faites-vous maaf. Même si vous êtes dans votre droit, demandez maaf. Humiliez-vous pour Allah, Allah va vous honorer. Humiliez-vous pour Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va vous honorer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, combien d'enfants aujourd'hui ne parlent pas avec leurs parents? Les enfants qui ne parlent pas avec leurs parents. Un enfant qui pendant une semaine n'a pas pris de nouvelles de sa maman et de son papa? Un mois? Un an? Et on vit dans la même ville? Allahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala an, « Ya Omar, lorsque tu rencontreras un homme qui s'appelle Ouais, il vient de Qarn, on l'appelle Qarni, il est noir, il est de taille moyenne et il a une tache blanche, alors demande-lui de faire doua pour toi. » Alors le prophète sallallahu, Omar radiyallahu an, lorsqu'il est devenu amir al-mu'minin, chaque année dans le Hajj, il demandait. Et puis une année, il a dit aux gens, asseyez-vous, et les gens du Yémen, mettez-vous debout. Il leur a demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Ouais? Alors on lui a dit, quelqu'un a dit oui, mais c'est quelqu'un qui a un petit problème, il semble avoir des problèmes de compréhension, il a un petit retard. Alors Omar radiallahu anhu a dit, non, il n'a pas de problème, où est-ce qu'il est? Il est du côté de Arafat, là-bas, il est avec ses bêtes. Omar radiallahu anhu et Ali radiallahu anhuma, radiallahu anhu, donc, ils ont pris leur monture et se sont dirigés vers Arafat. Et là, ils arrivent et Ouais, il est en train de faire la salat devant un arbre. Et dans sa salat, il a entendu qu'il y a des gens qui arrivent. Et là, il a fini sa salat, on lui dit, Ali lui dit, comment tu t'appelles? Il a dit, je m'appelle serviteur d'Allah. Alors, il lui dit comme ça, mais on sait bien que tout le monde est serviteur d'Allah, mais c'est quoi ton nom? Il a dit, mais toi, t'es qui? Qu'est-ce que tu veux, pourquoi tu veux connaître mon nom? Alors, Ali, radiallahu anhu, il dit, ça c'est Omar ibn al-Khattab, amir al-mu'minin, et moi, je suis Ali ibn Abi Talib. Il a dit, vous ne vous connaissez pas? Moi, je m'appelle Ouais. Alors, ils lui disent, lève la main et fais doigt pour nous. Il dit, moi, faire doigt pour vous? Il dit, Rasoulallah, sallallahu alayhi wa sallam, vous pensez vraiment que Omar avait besoin du doigt de Ouais? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné un message à l'humanité entière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné un message à l'ensemble de la Oumma. Prenez considération de vos parents. Prenez considération de vos parents. Faites khidmat de vos parents. Nos parents n'attendent pas que nous leur donnions des richesses. Nos parents attendent que l'on leur offre de l'affection. Nos parents ont besoin de notre présence. Nos parents ont besoin de notre amour. Nos parents ont besoin de voir notre sourire. Nos parents ont besoin de notre chaleur. Les relations familiales, ce n'est pas seulement pour obtenir de l'argent. L'argent, c'est éphémère. Aujourd'hui, on a, demain, on n'aura plus. Ce n'est pas ça qui compte. Ne construisez pas des relations. Ne construisez pas des relations autour de l'argent. Ça ne durera pas. Mais de vraies relations. Des relations basé sur ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a enseigné. Ouais a eu cette place parce qu'il a fait khidma de sa maman. Il a renoncé à aller rencontrer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam juste pour faire khidma de sa maman. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, le jour de Qiyama, quand les gens iront dans le Jannat, vous imaginez, Allah Ta'ala nous donne tous et toutes le Jannat, Inch'Allah. Dites Amin. Et les gens, ils iront dans le Jannat. Quand Waïs va passer près de la porte, Allah dira, lui, mettez-le sur le côté. Maintenant, vous imaginez, il va être pris de peur, de crainte. Il va se dire, mais qu'est-ce qui arrive de moi? Alors, Allah Subhanahu wa Ta'ala dira, Waïs, tu m'as comblé, tu m'as fait plaisir par le service que tu as fait pour ta maman. Une nouvelle fois, je demande à tous les jeunes et à les moins jeunes, si nos parents sont encore vivants, allez leur rendre visite aujourd'hui. La fête des mères, ce n'est pas seulement aujourd'hui. La fête des mères, c'est toute l'année. Chaque matin, c'est la fête des mères. Chaque nuit, c'est la fête des mères. Si un jour vous ne pouvez pas vous rendre directement au domicile de vos parents, téléphonez-leur. Demandez à ceux dont leurs mamans sont dans le qabar aujourd'hui. Ils peuvent leur parler. Si votre maman n'est plus là, lisez le Coran pour elle. Si votre papa n'est plus là, lisez le Coran pour lui. N'ayez pas de grief vis-à-vis de vos parents. Ah, mon papa, il aime plus ma sœur que moi. N'ayez pas ce genre de pensée. C'est votre papa. Vous ne connaissez pas le cœur d'un père. Un papa, c'est quelqu'un qui sacrifie tout pour nous. Tout. Combien de plaisirs qu'il pourrait assouvir pour son plaisir égoïste, il les renonce seulement pour combler ses enfants. La sueur d'un père a une telle valeur auprès d'Allah. Combien de papas, seuls devant Allah, sur leur tapis de prière, ils pleurent devant Allah pour leurs enfants. Le ouf d'une maman au moment de l'accouchement, la grossesse, tout cela, on le sait déjà. Alors, avant que nos parents quittent ce dunya, il faut les combler. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dira à Waïs Qarni que tu m'as comblé par le khidmat que tu as fait à ta maman. Et tu vois, regarde derrière toi. Et derrière lui, il y aura les criminels, les personnes qui sont destinées à l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala lui dira, tu vas prendre ton doigt et tu vas diriger vers ces gens de la quantité des tribus Rabi'a et Muzar. C'était deux tribus en grande quantité chez les Arabes. Et tous ceux vers lesquels tu vas pointer ton doigt, ils iront dans le paradis. Inch'Allah l'Aziz. Vous voyez le respect des liens de parenté, combien c'est important en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un matin, il dit, j'ai vu en rêve que j'étais au paradis et j'ai entendu la lecture de Haritha ibn Nu'man, radiyallahu ta'ala anhu, dans le paradis, il lisait le Coran. Pourquoi? Parce que Haritha ibn Nu'man, il faisait un tel khidma de sa maman. Il lavait lui-même les vêtements de sa maman. Il préparait à manger pour sa maman. C'était des hommes mariés. Ils ne disaient pas à leurs épouses, ben c'est toi qui vas t'occuper de ta belle-mère. Mais bien sûr, la belle-fille s'occupe aussi de sa belle-mère. Mais c'est le devoir du fils de montrer de sa présence. Il le faisait. Sayyidina Moussa alayhi salatu wa salam, lorsqu'il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, qui sera mon compagnon dans le Jannat? Allah tabarak wa ta'ala a dit, un boucher. Un boucher? Il est allé voir. Cet homme, tous les matins et tous les soirs, il allait... Il préparait du pain pour sa maman, il préparait de la nourriture et il écrasait ça, il rentrait ça tendre et puis il faisait manger sa maman. Et sa maman murmurait quelque chose. Alors Moussa a demandé à l'homme, il a dit, qu'est-ce que elle dit? Elle a dit que Allah te donne Moussa comme compagnon dans le paradis. Il a dit, où ça moi, où ça Moussa? Elle a dit, Allah a accepté ton doigt. Allah, il a accepté tes doigts. Wallah, il a azim. Occupons-nous de nos parents. Les parents, chez les musulmans, en islam, la dignité d'un homme se trouve dans le service de ses parents. La grandeur d'un homme se trouve dans la noblesse de son attitude avec ses parents. Un parent, ce n'est pas quelqu'un qu'on prend comme un paquet qu'on dépose quelque part et on demande à des gens de s'occuper de nos parents. Non. Même qu'on n'a pas le temps, on trouve le temps. Notre temps, eh bien, il doit être consacré pour nos parents. Ça, c'est la priorité des priorités. Ensuite, chère mère, chère sœur, troisième chose très importante, les personnes qui ne vont pas obtenir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, troisième et quatrième chose sont liées, eh bien, c'est la personne qui a de la haine dans son cœur, la personne qui a de la rancune dans son cœur. Il faut libérer notre cœur, il faut purifier notre cœur. Le Saum Ramadan, une nouvelle fois, c'est un bouclier pour nous, contre le feu de l'enfer. C'est un bouclier contre le feu de l'enfer. Mais il va nous protéger du feu de l'enfer, pas seulement en s'abstenant de manger et de boire, mais en apprenant à, en multipliant la lecture du Coran dans ce mois de Ramadan. Dans le kalam, Allah, il y a un nour. Il y a une lumière dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'action à laquelle on doit se consacrer le plus dans le mois de Ramadan, c'est la lecture du Coran. Augmenter les salats, lire la ilaha illallah, dire astaghfirullah, dire Allahumma inni as'aluka al-jannah, ou Allah, je te demande le paradis, wa a'udhubika minan nar. Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et demander avec Allah subhanahu wa ta'ala de purifier nos cœurs de toute forme de haine, de toute forme de jalousie. Il y avait un sahaba du nom de Muawiyah radiyallahu anhu. À l'époque, Muawiyah était encore jeune. C'était un sahaba qui était très beau, Muawiyah radiyallahu anhu. Alors, un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'appelle et il dit comme cela que Muawiyah, il y a le prince de Ghassan qui doit passer pas très loin de Madina al-Munawwara. Il a envoyé un message, il a dit qu'il va venir et que... il a un cadeau pour moi. Mais il ne veut pas devenir musulman, il veut juste donner son cadeau. Alors tu vas aller attendre à tel endroit et puis tu me ramènes son cadeau, s'il te plaît. Muawiyah dit ok. Maintenant il part. Il passe par des chemins où c'est rocailleux, etc. Il fait très chaud, on est en Arabie. Il attend. Et le convoi de ce roi tarde à venir. Alors, Muawiyah radiallahu anhu, il pense à partir à un moment, mais il se dit que c'est l'ordre de Rasulullah, je ne peux pas partir. Au bout d'un long moment, eh bien, voilà que le convoi de ce prince arrive avec des danseuses, avec des chanteurs, etc. Il demande à voir le prince. On lui demande, t'as t'es qui ? Il dit, je suis le serviteur de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On lui dit, tu viendras voir le prince quand il le voudra. Le prince, eh bien, son convoi s'arrête, ils montent les tentes, ils font la fête, ils mangent, ils boivent, ils demandent d'avoir un peu de nourriture. On lui dit, non, ça c'est la nourriture des princes, ça c'est la boisson des princes, toi tu n'as pas le droit. Et le prince lui dit, je ne te donne pas tout de suite le présent, il faut me suivre. Et pendant des kilomètres, il est obligé de les suivre à pied. Il dit, mais donnez-moi une monture au moins. Et ça aussi, il refuse. Mais Muawiyah, radiyallahu anhu, accepte tout cela parce que il a en lui l'amour de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète d'Allah lui a demandé de faire quelque chose, il le fait. Au bout d'un long moment, le prince consent à lui donner le présent pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit l'état de Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu, il lui dit comme cela que pourquoi tu l'as suivi ? Il fallait laisser le cadeau là-bas. Il dit non, ya Rasulullah, c'était ton ordre. Des années vont passer. Abu Bakr devient amir, Amirul Mu'minin, Omar, Uthman, Ali, jusqu'à ce que Muawiyah radiyallahu anhu devient chef des croyants. Les musulmans ont conquis Ghassan et on lui dit que les musulmans ont fait 6000 prisonniers. Muawiyah radiyallahu anhu vient voir ses prisonniers et tout de suite il reconnaît le prince. Si c'était vous, si c'était moi, qu'est-ce qu'on aurait fait ? Là où ça goûte à moi. Hier, j'avais pas le pouvoir, mais aujourd'hui, il a le pouvoir. Là. Nous, on aurait pensé ça. Muawiyah lui dit, tu m'as reconnu ? Elle dit, ah oui, tu es le chef des croyants. Elle dit, non, c'était moi le serviteur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ouh là là, le prince, il se dit, je suis fichu. Mouawiya radiallahu anhu dit, emmenez-le dans ma chambre. Donnez-lui à manger ce que je mange. Pendant un mois, tous les soirs, Mouawiya radiallahu anhu, il massait les pieds de ce prince. Le prince, il ne comprend pas. Il dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire avec moi? Et à la fin, il lui dit, mais pourquoi tu fais comme ça? Il lui dit, je fais comme cela parce que, au fond de moi, il y a quelque chose qui me dit de prendre ma revanche, mais je n'ai pas le droit de le faire. Parce que tel n'est pas l'enseignement que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a donné. Ce prince lui dit, tu peux faire de moi ce que tu veux, je veux accepter l'islam. Mes chères mères et sœurs, si moi le premier, et chacun d'entre nous, et chacune d'entre vous, nous apprenions à vivre avec un cœur pur de toute haine, de toute rancœur, combien de personnes qui regardent l'islam d'un regard plein de réprobation aujourd'hui viendraient très certainement à l'islam. Parce que la plus belle vitrine de l'islam, n'est-ce pas la haute moralité et l'éthique qu'enseigne notre religion. Hazrat Maulana Ashraf Ali Thani, rahimahullah, il dit comme cela que le pire des péchés du cœur, c'est la jalousie. Le pire des péchés du cœur, c'est la jalousie. C'est de la jalousie que vient la rancœur. C'est de la jalousie que vient l'envie de revanche. Alors, mes chères mères et sœurs, sachons demander pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et je conclurai en vous exhortant à prier Allah subhanahu wa ta'ala. Ce mois est le mois des invocations. Ce mois est le mois des invocations. Il faut consacrer un maximum de temps à demander dua avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas réciter les dua. Il faut demander avec Allah. Quand je lis Hizbul A'zam, quand je lis 40 Rabbana, j'ai des récompenses, j'ai des ajr avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mes dua, c'est demander. Munajat, il faut parler avec Allah. Il faut parler. Vous ne savez pas l'arabe, ce n'est pas grave, parlez en français. Vous êtes plus à l'aise en créole, parlez en créole. Vous êtes plus à l'aise en ourdou, allez-y. Vous êtes plus à l'aise en maoré ou en comorien. Quelle que soit la langue que vous maîtrisez, utilisez cette langue et parlez avec Allah subhanahu wa ta'ala. Demandez avec Allah tabarak wa ta'ala. Dites, oh Allah, donne-moi. Oh Allah, donne-moi. Et il y a deux moments dans la journée que nous ne devons pas négliger. Ces deux moments, eh bien, c'est à l'heure du suhour et c'est à l'heure du iftar, où il faut consacrer notre temps à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Demandez doua avec Allah pour vous-même. Demandez doua avec Allah pour vos parents. Demandez doua avec Allah pour vos enfants. Demandez doua avec Allah pour vos époux. Si une maman ne demande pas doua avec Allah pour ses enfants, mais qui va demander à Allah doua pour ses enfants? Si une maman ne demande pas doua, une épouse ne demande pas doua pour son époux, mais qui va demander? C'est une autre femme qui va demander doua pour votre époux? Alors je vais terminer par deux choses. Un hadith et un récit de Imam Asim, rahimahullah, dont on lit le riwayat lorsqu'on lit le Coran. Et ce sont dans lesquels il va y avoir deux choses. Incha'Allah al-Aziz, ça va être notre cadeau de ce dimanche, Incha'Allah. Par la première chose, un hadith rapporté dans Tabrani et Majma'u Zawaid, à la fin de cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre qu'on obtient le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors avant de conclure, à voix basse, tranquillement, je vais lire et vous allez répéter 10 fois. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Quand on dit Allahu Akbar, à chaque fois Allah dit ça c'est pour moi, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi. Maintenant on va dire 10 fois. Subhanallah, 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 Subhanallah. À chaque fois, Allah dit ça, c'est pour moi. Maintenant, on va dire Allahumma ghfirli. Ça veut dire, oh Allah, pardonne-moi. Et à chaque fois qu'on va le dire, Allah va dire, je t'ai pardonné. Incha'Allah, On va sortir de ce masjid avec le pardon d'Allah. Incha'Allah, Allah qui est Ghafur Rahim, il va nous pardonner. Incha'Allah, dans ce mois qu'Allah a béni, il va nous combler de ses bénédictions. Ayons de grandes espérances sur Allah subhanahu wa ta'ala, mais ayons au plus profond de notre cœur l'intention ferme de changer notre existence, de vivre en respectant les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et en suivant la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On va dire Allahumma ighfirli, 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 Allahumma ighfirli. Un jour, Imam Asim, rahimahullah, c'était quelqu'un qui était très pauvre, mais c'était un grand savant. Et son épouse n'avait pas de moyens, ses enfants, ils n'avaient pas de moyens. Alors les gens, comme ça, souvent, ils sont pleins de dignité et ils n'expriment pas leurs besoins. Mais là, il était dans une situation difficile, il est allé demander de l'aide à deux ou trois personnes. Et à chaque fois, les gens lui ont dit qu'ils ne pouvaient pas l'aider. À la fin, il s'est dit, je suis bête. Il dit, la meilleure des choses, c'est de demander avec Allah. Le soir, il est allé dans le masjid, il a commencé à demander doigts avec Allah. Mais ce n'est pas des doigts qui durent 5 minutes. Il a passé la nuit à demander devant Allah. Il a dit, oh Allah, je n'irai devant aucune autre porte. C'est devant ta porte que je viens. Et il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala par 4 noms que je vais citer devant vous. Inch'Allah, on va essayer de mémoriser. Et s'il le faut, Inch'Allah, on va partager. Il a dit, ya musabbib al-asbab. Ya Mufattih al-Abwab, Ya Samia al-Aswat, Ya Mujib al-Da'wat, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Il faisait ses doigts, il a invoqué Allah, il a entendu un bruit. Lorsqu'il a entendu ce bruit, il a vu un sac dans lequel il y avait 800 dinars. Il a vu 800 dinars, il a dit, mais quelqu'un a perdu, ça vient d'où? Elle a dit, c'est qui? Montrez-vous. Alors une voix lui a dit, mais tu nous as demandé, on t'a répondu. Tu nous as demandé, on t'a répondu. Allah subhanahu wa ta'ala, il répond lorsqu'on lui demande. Un kafir, un mushrik, il demande, Allah lui répond. Allah, ne l'oublions jamais, il est le Seigneur des pieux. Allah est également le Seigneur des pécheurs. Allah nous aime tous, sans aucune distinction. Allah veut tous nous pardonner. Allah veut qu'on s'adresse à lui. Allah veut que nous venions, nous nous tournions vers lui. Alors tournons-nous vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous a comblés. Allah nous a honorés en nous donnant la chance de vivre ce mois de Ramadan. Nous avons encore beaucoup de jours, beaucoup de nuits devant nous. Il faut profiter chaque seconde, chaque minute. Eh bien, sont précieux. Il ne faut pas les dilapider en allant dans les futilités. Recentrons-nous. Revenons à l'essentiel. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la santé. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la force. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le courage. Allah tabarak wa ta'ala il agrée nos ibadat. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la force de trouver son agrément. Et Allah subhanahu wa ta'ala il protège l'ensemble de la umma de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma tawfiqi illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم والله toi qui es clément, toi qui es miséricordieux, oh Allah omniscient, oh Allah omnipotent, oh Allah toi qui es omniprésent, oh Allah toi le premier, oh Allah toi le dernier, oh Allah pardonne-nous ya Allah. Et Allah pardonne-nous nos péchés majeurs, mineurs, oh Allah les péchés commis dans l'obscurité de la nuit ou les péchés commis dans la lumière du jour, oh Allah les péchés commis seuls ou en groupe, oh Allah. Oh Allah, tu aimes pardonner, ya Allah. Tu es pardonneur, ya Allah. Nous n'avons pas d'autre porte où partir, ya Allah. Seule ta porte est ouverte. Toutes les autres portes se sont fermées devant nous. Oh toi qui es le tout clément. Oh Allah, toi qui es le tout miséricordieux. Oh Allah, toi qui es le tout compatissant. Pardonne-nous, ya Allah. Et Allah, dans cette assemblée, il y a des mamans musulmanes, ya Allah, qui ont porté des enfants musulmans pendant 9 mois, ya Allah. Et Allah, qui ont vécu un accouchement, ya Allah, qui ont fait grandir des enfants musulmans, ya Allah. Oh Allah, nous savons combien t'es appréciable, eh bien, ces mamans musulmanes, ya Allah. Et Allah, combien parmi nous qui sommes présents ici, ya Allah, ont offert plusieurs prosternations devant toi, ya Allah, depuis tant d'années, ya Allah. Ilaha al-alamin, nous sommes dans ta maison, ya Allah. Nous sommes dans un mois sacré, ya Allah. Nous sommes dans une période sacrée, ya Allah. La période du pardon, ya Allah. Pardonne-nous, ya Allah. Pardonne-nous, ya Allah. Et Allah, pardonne-nous, ya Allah. Quel que soit le péché que nous ayons commis, ya Allah, pardonne-nous. Guide-nous dans le droit chemin, ya Allah. Le chemin de ceux dont tu as comblé de tes bienfaits et non de ceux qui ont encouru ta colère. Oh Allah, fais que la réalité de la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, arrive en nous, ya Allah. Ya zal jalali wal ikram. Et Allah, rend iman précieux pour nous, ya Allah. Et Allah, donne-nous la valeur de iman, ya Allah. Fasse que iman soit la chose la plus précieuse de notre existence, ya Allah. Protège-nous des interdits, ya Allah. Protège-nous des choses douteuses, ya Allah. Et Allah, donne-nous la fermeté, ya Allah. Donne-nous la constance, ya Allah, sur ce dîn, ya Allah. Ilaha al-alamin. Ilaha al-alamin, fais de nous des gens de bien, ya Allah. Fais de nous des gens qui accomplissons des actions de bien, ya Allah. Fais de nous des facteurs de bien, ya Allah. Ilaha al-alamin. Ilaha al-alamin, agrée-nous parmi tes pieux serviteurs et tes pieuses servantes, ya Allah. Oh Allah, sois satisfait de nous, ya Allah. Sois satisfait de nous, ya Allah. Et Allah, sois satisfait de nous, ya Allah. Accorde-nous la santé, ya Allah. Accorde-nous la afiyat, ya Allah. Ceux qui sont malades, ya Allah, donne-leur la santé, ya Allah. Celles qui sont malades, ya Allah, donne-leur la santé, ya Allah. Et Allah, beaucoup de nos mères, beaucoup de nos sœurs, beaucoup de nos frères, beaucoup de nos enfants sont malades, ya Allah. Oh Allah, c'est toi le guérisseur, ya Allah. Personne ne peut guérir si ce n'est que toi, oh Allah. Oh Allah, par ton pouvoir absolu, ya Allah, accorde la guérison à tous ceux qui sont malades, ya Allah. Ramène la joie et le bonheur dans l'ensemble des foyers musulmans, ya Allah. Ya zal jalali wal ikram, nos défunts qui nous ont quittés, ya Allah. Et Allah, bénis leur tombe, ya Allah. Déverse tes grâces infinies sur eux, ya Allah. Et Allah, fait de leur tombe un jardin parmi les jardins du paradis, ya Allah. Et Allah, protège tous les défunts musulmans des supplices de la tombe, ya Allah. Ilaha al-alamin, fais de ce moment de la tombe un moment agréable, ya Allah. Lorsque viendra notre tour pour quitter ce dunya, ya Allah. Et Allah, rend facile pour nous, ya Allah, nos derniers instants, ya Allah. Protège-nous des difficultés de l'agonie, ya Allah. Et Allah, donne-nous une belle mort, ya Allah. Avec la ilaha illallah sur la langue, ya Allah. Avec toi dans notre cœur, ya Allah, ilaha al-alamin, fasse que nos yeux, ya Allah, brillent à l'idée de ta rencontre, ya Allah, ilaha al-alamin, man kana yarju liqa Allah, fa inna ajal Allah la'at, wa huwa as-sami'u al-alim, ya Allah, fasse que ce moment soit un moment extraordinaire dans notre vie, ya Allah, lorsque nous reviendrons vers toi, ya Allah, ya zal jalali wal ikram, ya Allah, ressuscite-nous parmi les musulmans, ya Allah, yawm al-qiyama, ressuscite-nous dans la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah, fait que nous puissions boire l'eau du Kawthar des mains de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ilaha al-alamin, agrée-nous, ya Allah, parmi la ummah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yawmul qiyama. Accorde-nous le jannatul firdaus sans hisab, ya Allah. Protège-nous du feu de l'enfer, ya Allah. Protège-nous du feu de l'enfer, ya Allah. Protège-nous du feu de l'enfer, ya Allah. Et Allah, des musulmans et des musulmanes dans le monde, ya Allah, sont en train de jeûner, ya Allah. Ils sont dans des situations d'oppression, ya Allah. Certains vivent dans des guerres, ya Allah. Ilaha al-alamin, c'est la même ummah, ya Allah, du même prophète, ya Allah, de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils croient dans le même Dieu, ya Allah. Ils croient en toi, oh Allah. Ils disent Allahu Akbar comme nous, ya Allah. Ils disent Subhanallah comme nous, ya Allah. Oh Allah, oh Allah, oh Allah, aide-les, ya Allah. Protège-les dans ce mois de Ramadan, ya Allah. Emmène la paix dans ce mois de Ramadan, ya Allah. Et Allah, combien ils souffrent, ya Allah. Délivre-les de ces souffrances, ya Allah. Et Allah, délivre-les de ces souffrances, ya Allah. Nous sommes faibles, ya Allah. Nous sommes faibles, ya Allah. Et Allah, tu es fort, ya Allah. Nous sommes pauvres, ya Allah. Tu es riche, ya Allah. Et Allah, nous sommes tes esclaves, ya Allah. Tu es notre roi, ya Allah. Ilaha al-alamin. Ilaha al-alamin, oh Allah. Aide-les, ya Allah. Permets-nous, ya Allah, d'aller à Mecca et Medina, ya Allah. Si nous sommes déjà allés, ya Allah, ramène-nous. Si nous ne sommes jamais allés, ya Allah, permets-nous d'aller à Mecca tout le Mukarrama et Medina tout le Munawara, ya Allah. Ceux qui n'ont jamais accompli le Hajj, ya Allah, rends-le facile pour eux, ya Allah. Et Allah, permets-nous de prier dans le Masjid al-Aqsa, ya Allah. Mais l'amour du Masjid al-Aqsa dans le cœur de chacun d'entre nous, ya Allah, ya dhal jalali wal ikram, ya hannan, ya mannan, ya badi' as samawati wal ard. Ceux qui sont mariés, ya Allah, mets le bonheur dans leur couple, ya Allah, mets le bonheur dans leur foyer, ya Allah. Ceux qui ne sont pas mariés, ya Allah, rends le mariage facile pour eux, ya Allah. Ceux qui ont des enfants, ya Allah, fais de leurs enfants la fraîcheur de leurs yeux, ya Allah. Ceux qui n'ont pas d'enfants, ya Allah, donne-leur des enfants qui soient fraîcheur de leurs yeux, ya Allah. Si nos parents sont vivants, ya Allah, fais de nous la fraîcheur de leurs yeux, ya Allah. Si nos parents ont quitté ce dunya, ya Allah, et Allah, fasse que nous soyons un moyen, ya Allah, pour que constamment, ya Allah, nos parents bénéficient des œuvres, de bonnes œuvres que nous accomplissons dans ce dunya, ya Allah. Ilaha al-alamin, accepte nos doigts, ya Allah. Ce que nous avons demandé, ya Allah, ce que nous n'avons su ni pu demander, ya Allah. Ilaha al-alamin, accepte les espérances de chacun d'entre nous au plus profond de nos poitrines, ya Allah. Ya dhal jalali wal ikram, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammadin wa barik wa sallim bi rahmatika ya arhamar rahimin. À la sortie, inshallah, il y a des prospectus qui s'appellent le livre des bonnes œuvres, hein, qui parle, eh bien, des grands projets du masjid. Donc chaque sœur qui ne l'a pas eu peut le prendre et inshallah ou l'aziz peut contribuer selon ses moyens, inshallah, pour la concrétisation des projets de notre masjid, notamment la construction du masjid de Saint-Clotilde, des futurs projets de Moufia, inshallah ou l'aziz. Il est rare que dans une vie on ait l'occasion de contribuer, eh bien, à la sortie d'un masjid, inshallah ou l'aziz. C'est une formidable occasion. Profitons-en. Même 1 euro nous sera énormément profitable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah.